Bon, eh bien, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Marilyn, je suis très récemment, depuis le mois de septembre, au rayon littérature de chez Mola. Pour commencer, c'est ici ma première conférence, donc vous pardonnez un petit peu mes maladresses. Voilà, c'est sur le compte. On sera à mettre ça sur le compte de l'inexpérience. Donc, avant tout, bienvenue à Véronique Ovaldé, qui donc va nous présenter un petit peu son livre Des vies d'oiseaux, qui est sorti en août dernier. Et puis, merci avant tout de vous voir si nombreux. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas lu le livre, je vais faire un petit résumé. Donc, Des vies d'oiseaux, ça commence d'une façon vraiment très, très, très drôle, puisque, en fait, le couple Isara rentre de vacances et ils s'aperçoivent donc que quelqu'un est rentré chez eux. Mais pas pour voler, juste pour vivre chez eux. Et donc, ils appellent, bien entendu, la police. Et la police se dit, mais... Après tout, ils n'ont rien volé, c'est pas très grave, quoi. Enfin, c'est pas urgent. Et donc de là, en fait, va naître une relation entre plusieurs personnages, et on va en apprendre, bien entendu. Enfin, le personnage un peu central, en fait, c'est surtout Vida, je pense, et, au début du moins.
Qui est la dame, Madame Isara.
Voilà, Madame Isara, excusez-moi. et donc, alors... Déjà, pour commencer, donc, votre livre précédent,
ce que je sais d'un
candidat, excusez-moi, a reçu énormément de prix. Je voulais savoir un petit peu si vous n'avez pas écrit un peu le livre précédent, le livre suivant, pardon, Des vies d'oiseaux, avec une certaine pression, en se disant qu'il fallait peut-être faire mieux ou aussi bien, le challenge.
Alors, de toute façon, c'est particulier quand même d'écrire des... Bon, c'est particulier d'écrire des livres, voilà, on va dire ça déjà. Et ce qui se passe, c'est que, de toute façon, quel que soit le succès d'un livre, c'est toujours compliqué d'en écrire un autre. À partir du moment où on décide de publier ces romans, de les rendre publics, donc, et qu'on a en face de soi des gens qui les ont lus et qu'ils ont plus ou moins une grande réception... On est, quand on écrit un nouveau texte, évidemment, on a en tête qu'il va être publié, celui-là aussi. Or, quand un livre n'a pas du tout de succès, c'est évidemment ce qu'il y a de pire. Alors, vous écrivez les uns après les autres. Il y a plein d'auteurs comme ça qui se disent, mais voilà, ça viendra ou pas, ou jamais. Et parfois, c'est décourageant. Et quand un livre a beaucoup de succès, évidemment, vous savez qu'il peut y avoir un enjeu autour de ça, mais un enjeu très personnel. Mais au fond, c'est ça qui est compliqué. C'est que quand j'ai publié Ce que j'essaie de faire à Candida, moi, j'avais déjà publié 5 romans avant, et ça se passait très bien. Enfin, depuis un moment, ça se passait bien. Celui-ci, il a été, Vera Candida, il a eu particulièrement... il a eu une réception voilà, très, très particulière et qui s'est étendue. Et une très bonne réception de la part des médias et de la part des critiques, des lecteurs. Et du coup, ce qu'il faut, c'est de ne pas se laisser... en quelque sorte contaminé, colonisé par l'idée que vous avez des lecteurs. Parce que les lecteurs, ils ont souvent des choses à vous dire sur ce qu'ils ont aimé de votre livre ou ce qu'ils attendent de vos livres et ce que le livre, quand ça leur a plu, ce qu'il leur a apporté. Et du coup, tout ça peut être presque du brouillage, en fait, quand on écrit un roman. Donc je crois qu'il faut surtout oublier ses lecteurs au moment où on écrit le roman. Alors ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'est pas si difficile à faire, je crois. Qu'en fait, il faut fermer les écoutilles et puis ne pas penser trop à ça et ne pas se laisser... savoir que de toute façon, le succès d'un livre, c'est très ponctuel, c'est magnifique à vivre au moment où ça se passe. Et puis, voilà, ça s'efface tout doucement. Ce qui est, le fait que j'arrive aussi à prendre pas mal être un peu plus philosophe sur la question que certains autres auteurs, j'imagine, c'est parce que je travaille dans l'édition depuis longtemps, depuis 20 ans, et je suis éditrice depuis quelques années, et je participe à des comités de lecture dans une maison d'édition, et là j'entends des choses terribles, évidemment, parce que quelqu'un présente un livre en disant, mais vous savez, c'est ce type qui a eu tellement de succès en 87, il avait vendu 250 000 exemplaires de son livre, et moi j'ai jamais entendu parler de lui, et Dieu sait si quand même j'en lis des bouquins, et je suis un peu au courant de ce qui sort, donc je me dis toujours, ça relativise quand même le succès d'un ouvrage. Donc voilà, donc en fait, c'est très, très étonnant, vous pouvez avoir beaucoup de succès un jour, et puis le lendemain, il ne se passe plus grand-chose. le fait aussi qu'écrire des romans, c'est votre notoriété, elle est quand même très circonscrite aussi. Hein, je veux dire, les gens qui ont beaucoup, beaucoup de succès. C'est Marine Diaye qui disait, qui a eu le concours et qui a beaucoup de succès, qui disait toujours qu'évidemment, l'avantage, c'est que personne ne la reconnaissait dans la rue. Donc oui, évidemment, c'est pas être star de cinéma quand même, hein, publier des romans. Donc voilà, donc en fait, tout va bien.
Bon, très bien. Alors... En fait, là, quand même, dans Des Vies d'Oiseaux, vous nous emmenez un petit peu dans un monde assez, assez particulier, parce que, bon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, on a comme une espèce de frontière avec, d'un côté, les riches et qui sont soi-disant heureux, en fait, et de l'autre côté, les très pauvres, et avec une ville quand même très insalubre et une légende, en plus, particulière, puisqu'on parle d'homme-chien. Déjà, alors pourquoi avoir fait cette frontière et pas imaginer un juste milieu, j'ai envie de dire ? Et où est-ce que vous avez puisé en fait cette légende en fait des hommes chiens ?
Alors pourquoi ça c'est drôle, c'est difficile de répondre aux questions qui commencent par pourquoi. mais dans ce roman, ça se passe en Amérique latine, une Amérique latine qui est imaginée. Pourquoi en Amérique latine ? Parce que je pense que ça m'est très familier personnellement, on va dire, familialement, l'Amérique latine, mais aussi parce que c'est un continent très vaste. J'avais besoin de ce type de continent. Ça aurait pu se passer plus haut en Amérique, je pense, quelque chose comme ça. J'avais besoin de ce type de continent qui pouvait concentrer plusieurs pays en un seul. On a en effet Villanueva, cette ville où habite ce couple très riche. Ils ont une magnifique villa. Une villa un peu angoissante aussi, hein, parce que cette villa qui est totalement close, les fenêtres ne s'ouvrent pas, elle est complètement climatisée, puis elle s'effondre tranquillement en haut de sa colline. Donc il y a cette ville de bord de mer, très belle et un peu déliquescente, une ville qui a eu de plus belles heures, mais qui est quand même une ville assez bourgeoise. Et puis on a en effet un village, c'est les deux lieux importants en effet du roman, on a un village en plein désert, comme une sorte de village mexicain, un peu comme à l'étage en dessous ici. Voilà, on est à Irigoy en fait là. Et donc ce village, Irigoy, il est en effet très, très, très dur. Je dis que c'est comme le Strapontin du monde, c'est une espèce de village au bout du monde. Il est très sec, très aride. Et donc ça me permettait évidemment de mettre en face deux types d'endroits. Et puis on a aussi un autre lieu qui est le lieu de la chasse, parce qu'il y a une scène de chasse en fait dans ce roman, une scène de chasse au bison. Et cette scène de chasse se passe dans la neige, dans la montagne. Donc ça me permettait évidemment d'être très libre, de mettre toutes les géographies qui m'intéressent, qui me plaisaient et que nécessitait finalement mon histoire, parce que je voulais creuser avec ces disparités géographiques, je voulais creuser des disparités sociales aussi, puisque finalement l'histoire, le début de ce roman, c'est cette femme, je n'allais pas, oui je dis jeune femme, mais c'est, justement son problème c'est qu'elle a l'impression qu'elle n'est plus jeune. Donc cette femme qui vit dans cette villa magnifique et qui est une femme qui vient de ce village. Et elle est sortie de ce village. Elle a été sortie de cet endroit par la grâce de son mariage. Elle s'est mariée avec un homme très riche. Et au fond, c'est très difficile d'être... Mais ce sont, c'est toujours très difficile de changer le milieu social. C'est toujours quelque chose de douloureux. C'est toujours quelque chose qui fait qu'on oublie une partie de soi et qu'on est obligé d'oublier une partie de soi, qu'on ne se sent pas toujours tout à fait légitime dans ce nouveau milieu dans lequel on est, ce qui est un peu le problème de Vida. Et puis c'est cette petite phrase qu'elle a en tête au début du roman, parce qu'elle a l'impression d'avoir oublié aussi une partie de ce qu'elle est, de ce qu'elle était, de son identité, qu'elle est coupée en deux et qu'elle a tronqué quelque chose. Et elle a cette petite phrase qui lui dit « Mais qui saura d'où je viens ?» Ce qui a failli d'ailleurs être le titre du roman. Et donc voilà, donc en fait, c'était important pour moi d'avoir des lieux qui représentaient aussi les déchirements de certains de ces personnages.
D'accord. Parce qu'on peut dire en plus, pour ajouter à ça, c'est qu'il y a des images quand même très très fortes dans ce livre, puisque ce personnage de Vida, qui est quand même un personnage vraiment très complexe déjà, dans un passage, elle décrit donc cette fabuleuse maison qui est vraiment voilà, sur la colline. Il y a une vue extraordinaire et vraiment, la maison même en elle-même est très belle, équipée. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Sauf que voilà, on voit, elle dit qu'elle regarde, en fait, elle est dans sa cuisine et elle regarde la maison se fissurer. Est-ce que c'était une volonté de votre part, en fait, de dire au lecteur que dans tout ce beau, il y avait quand même, enfin, il y avait quelque chose derrière, quelque chose d'assez sombre en fait.
Je sais pas, en fait, au moment où j'écris le roman, je suis pas dans la démonstration de quelque chose. Et donc à aucun moment je me dis, tiens, il faudrait qu'elle s'effondre cette maison ou qu'elle soit fragilisée, donc tiens, je vais faire qu'elle se fissure. Vraiment, ça ne se construit pas de cette façon-là. Après, il s'avère qu'il est évident pour moi que cette maison, elle est en haut d'une colline et elle est donc sur un endroit qui n'est pas stable. C'est tout à fait évident au moment où, évidemment, je l'écris. Et puis, parce qu'évidemment, elle a une place où elle surplombe le reste vers la baie. Et puis, j'aimais bien l'idée de cette femme qui était assise dans sa cuisine à regarder le soleil scintiller sur l'océan devant elle, et puis en même temps qui regardait les fissures qui se faisaient chez elle, très méditative, très contemplative comme elle peut être. En fait, elle regardait les choses s'effondrer, mais assez tranquillement. Et voilà, j'aimais bien qu'elle soit un peu comme ça au début du roman, cette femme, et que chaque jour s'aligne après chaque jour pour elle, et qu'il n'y ait pas tellement de changements dans son existence. Ce qui m'intéressait aussi ici, c'était de prendre mes personnages à un moment crucial et dramatique dans leur existence. Dans mon précédent roman, je racontais des histoires, des trajectoires de vie, plusieurs générations comme ça de la même famille, les uns après les autres, donc vraiment de leur vie à leur mort. Bon voilà, je racontais ça donc de façon beaucoup plus, c'était beaucoup plus large quoi comme type de temporalité. Et là, je voulais en fait, je voulais prendre des personnages au moment du désordre, au moment où il se passe quelque chose dans leur vie qui va peut-être tout modifier. En tout cas, ils ont la possibilité de changer quelque chose dans leur existence. Ils sont tous installés dans quelque chose au moment où je les prends dans le roman, et puis le chaos se fait. Et ils ont la possibilité de sortir de leurs entraves, peut se faire. Ils ont la possibilité de se libérer. Donc ça, c'était très important. On a Vida, qui est comme ça, évidemment, comme je le disais, qui attend quelque chose, comme ça, au début du roman, qui regarde sa maison, et puis qui fait pas grand-chose d'autre. Il regarde des oiseaux, qui s'occupe de sa roseraie. Et puis, en face d'elle, on a Taïbo, ce lieutenant de police, qui va venir constater qu'il y a eu intrusion chez eux. Et ce lieutenant, c'est un type... c'est une espèce de policier mélancolique. Comme on peut voir aussi dans certains romans policiers ou dans certains films policiers, on a ce type un peu en dehors des choses, assez silencieux, assez muet, qui regarde lui aussi ce qui peut se passer sans trop intervenir. En tout cas, visiblement, il n'intervient pas trop. Et puis lui, c'est un type qui s'est retrouvé flic un peu par hasard. Il voulait pas être flic, puis il se retrouve flic. Mais il s'est accommodé tout ça. Il s'est accommodé du fait d'être devenu cet homme-là. Il s'est accommodé du fait que sa femme l'a quitté il y a 10 ans et qu'il aime toujours cette femme qui est partie. Et il vit avec ce chagrin d'amour. Mais en fait, finalement, il n'en est pas atrocement malheureux. Je trouve ça intéressant, les gens qui arrivent à s'accommoder et à faire un certain confort de leur inconfort, quoi. Et donc, ce type-là, il est comme ça. Et il n'en parle à personne. Évidemment, il ne peut pas parler d'une histoire d'amour qui s'est terminée il y a 10 ans et du fait qu'il en souffre toujours. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas en parler. Il est lieutenant de police. Il a, je sais pas, 40 ans dans cette ville, et on se le prendrait pour un cinglé s'il disait qu'il vit toujours dans le chagrin d'amour de cette femme qui est partie il y a 10 ans. Donc en fait, il n'en parle pas, puis en fait, il n'est pas si malheureux que ça, ce type. Mais il va y avoir un moment où tout ça, évidemment, tous ces gens-là se sont résignés en quelque sorte. Ils ont renoncé à une partie de ce qu'ils étaient. Donc voilà, moi, je leur donne la possibilité de passer à autre chose, de bifurquer, de prendre un virage. Vont-ils la prendre ou pas, cette possibilité? C'est le suspense, si tu livres.
Mais en parlant de Taïbo, justement, puisque donc c'est le premier personnage qu'on rencontre, donc comme vous le disiez, quelqu'un quand même de très calme, de très taciturne aussi, cet homme en fait donc reçoit l'appel des Isara et il est en train de lire un livre sur Solanas. C'est ça. Mais c'est vrai que vous citez Solanas sans dire qui c'est ou pourquoi il lit.
Faut pas dire pourquoi.
Oui, pas dire pourquoi, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'on peut, on peut quand même se poser la question. Lui qui est si calme, lit en fin de compte l'histoire d'une vie qui est tout au contraire, puisque Solanas était une grande féministe et qui a eu une vie un petit peu...
Enfin, c'était pas vraiment une grande féministe, c'était une féministe cinglée qui avait créé le SCOOM. Oui, qui était ce mouvement ultra-violent féministe. Et Valérie Jean Solanas, c'est la fille qui a fait une tentative d'assassinat sur Andy Warhol. Et moi, voilà, dès que la première page, en fait, il y a juste ça. C'est que je dis que ce type, au moment où il reçoit le coup de fil de ces gens-là, il décroche, il est en train de lire un livre sur Valérie Jean Solanas. Mais j'ai pas plus de choses à dire que ça au moment où j'ai pas envie de décrire ce qui se passe. Simplement, si on veut, si on sait qu'il y a Valérie Jean Solanas, tout va bien, on se dit, tiens, ce type est un peu particulier, ce lieutenant de police lit un livre sur cette bonne femme, c'est quand même particulier. Ça donne une ça ouvre une brèche, ça ouvre une possibilité sur cet homme-là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que les personnages, que les gens ne soient pas seulement ce qu'ils ont l'air d'être. Là, en l'occurrence, on a en effet deux personnages, que ce soit Vida, qui a l'air d'être une grande bourgeoise, magnifique, dans ses longs voiles, voilà. Et en fait, elle est tout à fait autre chose. Elle est cette petite fille qui vient d'un village misérable. Et puis ça, c'est pas résolu, évidemment. Et lui, il donne l'impression d'être un type plutôt solide, qui est un lieutenant de police, tout simplement. Et puis, il est beaucoup plus complexe que ça. J'aime bien les gens qui ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. Mais dans la vraie vie aussi, d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a ces deux-là, puis il y en a d'autres aussi, évidemment. Il y a d'autres personnages qui sont... Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est les gens qui sont... Des personnages qui sont plus profonds, plus ambigus que ce qu'ils ont l'air de... Ce qui donne à voir comme ça à la première impression. Mais comme, encore une fois, je ne suis pas en train de démontrer quelque chose, d'expliquer quelque chose, je ne vais pas expliquer qui il est, cet homme-là. On n'a pas besoin de savoir qui est Valérie Jean Solanas pour comprendre de quel genre d'homme c'est. Peu à peu, par ses actes, par le peu qu'il va dire, parce qu'il est très mutique, on va évidemment appréhender à quel genre de type on a affaire. Et c'est ce que va faire Vida, d'ailleurs. Peu à peu, elle va comprendre. Et ce qui m'intéressait, c'était de les mettre en présence l'un de l'autre, voir découvrir ce que c'est que leur rencontre. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre entre deux personnes comme ça? Qu'est-ce que ça peut donner?
Mais justement, parce que en fait, ces deux personnages en fait ont un coup de foudre l'un pour l'autre, enfin un coup de foudre réciproque. Et comme beaucoup d'autres personnages dans votre roman, puisque Vida, quand elle a rencontré son mari, a aussi eu un coup de foudre. Et lui
elle, je
ne
sais pas si elle l'a eu, mais lui, il a eu. Lui, son mari est tombé, ouais. Cet homme est tombé très amoureux d'elle.
Et la fille de Vida aussi, Paloma, a eu un coup de foudre oui. Pour Adolfo, qui lui était... Ça, est-ce que dans votre roman, en fait, l'amour ne peut pas se passer d'un coup de foudre, en fait? Est-ce que...
Non, je sais pas, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment... Entre Paloma... Donc, Paloma, c'est la fille de Vida, qui est partie il y a un an à peu près, qui les a quittés il y a une année auparavant, qui a quitté ses parents, et sur une dernière dispute. Et cette fille, en effet... Mais ils ont 20 ans. Donc, elle a 20 ans, Paloma, et elle croise Adolfo, qui a été embauché par sa mère comme jardinier. Et ils tombent en effet très amoureux l'un de l'autre. Et en effet, c'est un coup de foudre. Mais parce que c'est aussi leur très jeune âge qui fait que c'est un coup de foudre. Moi, je trouve que c'est pas vraiment un coup de foudre ce qui se passe entre Taïbo et Vida. La première chose que remarque, je le dis, la première chose que remarque Taïbo quand il voit Vida, quand elle lui ouvre la porte, il se dit pas « waouh, extraordinaire ». Il se dit « elle lui a souri, elle avait les cheveux blonds ». Donc là, on est vraiment dans le regard de Taïbo. Il la regarde, il la décrit, il la... Une coiffure compliquée qui semblait prête à s'effondrer, mais qui bien entendu ne s'effondrait pas, et un visage lisse et très pâle, délicatement plastifié, avec des pommettes hautes. On aurait dit qu'on avait mis de minuscules étais sous sa peau pour que ses pommettes puissent être aussi hautes. Ses yeux étaient beige. Donc on ne peut pas franchement dire, il se dit pas, quelle créature extraordinaire. Simplement, ça va venir peu à peu, justement. C'est des gens, ils n'ont pas 20 ans, ils n'ont plus 20 ans, donc ils ne sont plus dans ce type d'attente aussi, de la surprise, de l'amour qui vous tombe dessus. Et puis elle, pareillement. Donc elle est juste, elle est un peu troublée, en fait. Elle est surtout troublée au départ, quand elle voit ce type. Elle est même un peu étonnée de son trouble. Elle le voit remonter l'allée jusqu'à la porte de sa maison. Puis elle se dit, c'est marrant quand même que je sois aussi troublée. Donc eux, c'est quand même beaucoup plus... Enfin, je sais pas, c'est plus de leur âge. Voilà. Mais il y a un autre type de coup de foudre, parce qu'il y a un coup de foudre entre deux gamines. C'est qu'il y a Paloma, quand elle est petite, elle a un coup de foudre, en quelque sorte, pour une fille, Chili, qui sera sa meilleure amie entre 10 ans et 16 ans. Elles ne se quitteront pas. Et parce qu'il y a aussi, évidemment, ce type de coup de foudre. Et parce que pour moi, c'est quand même vachement lié à très lié, on dit. C'est très lié au jeune âge. Et ils sont tous dans un grand enthousiasme quand ils rencontrent quelqu'un. Et voilà, je crois qu'en fait, après, ils se sont un tout petit peu... ils sont moins prêts à se... les personnages sont moins prêts, les gens aussi d'ailleurs, je pense, sont moins prêts à se découvrir tout de suite auprès de quelqu'un. On est un tout petit peu plus prudent quand même. Et quand on est très jeune, évidemment, on l'est moins.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on va en parler beaucoup de cette relation un petit peu entre ces deux jeunes filles, parce qu'on retrouve quand même ce qu'on disait au début, c'est-à-dire les contradictions, puisque elles ont vraiment une relation fusionnelle, mais elles ne se ressemblent pas physiquement, au contraire, elles sont complètement différentes, et même dans leur caractère aussi, elles sont un petit peu... Enfin, à un moment, vous dites qu'il se passe quelque chose de très très drôle dans le roman, puisque les deux petites filles se rendent compte qu'à chaque fois, elles finissent quasiment les phrases l'une de l'autre, ou elles disent un petit peu les choses en même temps, mais c'est parce qu'elles n'ont pas une conversation non plus très, très, comment dire, très...
Très élaborée, très diversifiée, en effet.
Ouais. Mais en fait, c'est vraiment cette relation entre ces deux petites filles...
Oui, mais elles ne se ressemblent pas. Le fait que de ne pas se ressembler, c'est crucial, en effet.
Oui, tout à fait.
Parce que souvent, d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai que qui se ressemble, ça semble. Parce qu'en fait, on est quand même très attiré par quelque chose qui n'est pas nous. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant et ça qui est important. Donc, ces deux gamines-là, évidemment, elles sont à deux bouts l'une de l'autre. Et elles sont très... Après, qu'il y ait des ressemblances souterraines et des assemblages un peu mystérieux entre les gens, évidemment. Et c'est normal, c'est ça aussi qui fait le lien et l'importance d'un lien avec quelqu'un. Mais au fond, comme ça, elle donne à voir, évidemment, deux êtres totalement, totalement différents.
Très bien. D'ailleurs, si vous êtes toujours d'accord, et si ça vous fait plaisir aussi, je vous propose de lire un petit texte concernant voilà, Paloma et Chili.
Alors, c'est la rencontre entre ces deux petites gamines. Le chapitre, les chapitres ont un titre, ça s'appelle « Les filles de Villanueva ». Paloma et Chili se sont rencontrées à l'école Santa Teresa de Sonora. Elles ont à l'époque 10 ans. Elles ont l'impression de se retrouver, comme si elles avaient fait un long voyage amnésique et qu'enfin, une berge accueillante se dessinait. Ou du moins, c'est ainsi que Paloma voit la chose. De son côté, Chili est simplement prête à s'investir dans une relation ultra-fusionnelle. Je suis toi, tu es moi, avec une merveilleuse créature comme Paloma. En 1987, Chili mesure 1m30 et Paloma déjà 1m60. Chili pèse 10 kilos de plus que Paloma et arbore d'étranges genoux mous qui ressemblent à deux poches de sérum physiologique. Chili s'appelle Chili, mais bien avant de rencontrer Paloma, elle s'appelait Guadalupe. Quand elle était toute petite, elle mangeait tellement de chili con carne qu'un jour sa mère proposa d'organiser un concours lors d'une kermesse. Sa mère s'occupait à l'époque des animations de la kermesse de leur quartier et elle avait pensé que cette compétition était une très bonne idée. D'abord, parce qu'un stand où l'on concourrait pour manger le plus de chili serait une animation nouvelle et drôle qui attirerait du monde, et ensuite, parce qu'elle savait parfaitement que sa fille serait la meilleure. Elle gagnerait, elle serait portée en triomphe, et cette apothéose ferait un bien fou à son égo. Mais la petite Guadalupe s'était entempiffrée ce jour-là, avec tous ses camarades qui l'encourageaient, et elle, qui vivait vraiment son grand soir, qu'elle avait fini par perdre connaissance. Elle était tombée raide de sa chaise. Tout le monde s'était approché car on l'avait crue morte, et puis tout le monde s'était écarté quand elle s'était répandue en vomissements et diarrhées. Son père était arrivé, il avait évalué la situation et il avait réagi avec prudence et discernement. Il l'avait soulevée pour la balancer dans une brouette et puis il l'avait ramenée à la maison, toute pantelante, toute gémissante, toute odorante et toute dégueulasse. Depuis cet après-midi remarquable, Guadalupe avait abandonné le chili con carne. Mais cette kermesse et son bouquet final avaient marqué l'entourage de la fillette, à tel point qu'après, personne ne l'a jamais plus appelée autrement que Chili. À 10 ans, Chili a les cheveux aussi noirs que Paloma les a blonds. Elle aime les sodas multicolores et toutes sortes de ragoûts, tandis que Paloma a décidé de ne plus jamais manger de viande et qu'elle soupçonne le sucre des pires méfaits. Elle en débat avec Chili, qui l'écoute en mâchant des chewing-gums violets, diffusant une odeur de désinfectant pour moquette. Chili approuve ce que lui dit Paloma, parce qu'il est impossible de ne pas approuver ce que dit Paloma. Mais elle ne change en rien son audacieux régime alimentaire basé sur les arômes artificiels et les plats en sauce. Chili porte donc des maillots une pièce et Paloma de microscopiques machins turquoises. À part ces dissemblances spectaculaires, Chili et Paloma s'entendent en tout point.
Est-ce que vous aimez le chili con carne?
Oui, mais il m'est jamais arrivé un truc pareil, heureusement.
Non, mais dans ce passage-là, on se rend compte aussi de l'évolution de Paloma quand Chili dit qu'effectivement, on ne peut pas ne pas être d'accord avec Paloma. Et c'est vrai que c'est un personnage qui s'affirme. Dans son histoire, elle s'est affirmée quand même très, très rapidement, puisque bon, quand elle était petite, bien entendu, elle était très, très proche de ses parents. Mais très vite, elle ne les a plus appelés papa-maman, mais par leur prénom. Donc, c'est vrai qu'on sentait déjà une espèce de distance. Et on a envie de se demander quand même à qui la faute. Est-ce la faute de Paloma, parce que c'est dans son caractère? Est-ce que c'est la faute de son père parce qu'il est trop en retrait? Ou est-ce que c'est la faute de cette mère peut-être un peu envahissante et assez maladroite avec sa fille quand même?
Alors il faut qu'on psychanalyse Paloma là maintenant. Ah, c'est dur.
Mais c'est un personnage quand même très très intéressant puisque on la voit quand même de quasiment de sa naissance jusqu'à
ses 20-25 ans, ouais. Non, je ne sais pas exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une accumulation de choses. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de la mettre en présence. Paloma, cette gamine qui naît donc ce foyer très riche, elle est très attendue. Sa mère établit justement avec elle aussi une relation très, très fusionnelle, d'amour fou, en tout cas, avec cette toute petite fille qu'elle attendait et dont elle est folle en fait quand l'enfant est petit, mais aussi c'est les relations qu'on a avec les tout petits enfants. Quand on a un tout petit enfant, on est dans une sorte d'idylle avec cette petite personne. Donc elle est comme ça, Vida, quand sa fille naît, et peu à peu évidemment Paloma prend une sorte d'indépendance. Elle la prend assez tôt, elle la prend assez vite, mais c'est petit à petit quoi. Au début évidemment, vers 8 ans, elle décide de ne plus appeler ses parents papa maman. Elle les appelle par leur prénom. C'est des petites choses comme ça, les unes après les autres, qui marquent, en effet, qu'on a affaire à un tempérament assez autonome. Et ça fascine d'ailleurs Vida, ça fascine sa mère, qui se dit, tiens, c'est quand même incroyable, cette petite personne. Et si, elle est tellement libre, c'est très fascinant pour Vida, parce que Vida, au fond, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté d'être dans une très jolie cage dorée. Donc de voir que sa fille n'est pas du tout comme elle... C'est aussi très satisfaisant, même si ça veut dire aussi qu'à un moment donné elle partira sans doute, parce que Vida le sent, le devine. Elle est tout à fait sous le charme de cette gamine. Donc voilà, donc je pense que c'est juste une situation qui fait comme ça. Après on a une jeune fille comme Paloma un peu particulière qui se construit en but, mais ça m'intéresse les personnalités comme ça évidemment. De voir comment elle, à quel moment elle prend son envol, quel est le type de relation qu'elle a avec son père ou sa mère. Je le décris pas précisément, simplement je crée des situations où on voit comment elle leur parle, ce qui se passe, une dispute avec sa mère dans la voiture, une discussion on va dire avec sa mère dans la voiture, et on voit quel genre de relation elle entretient avec sa mère.
D'accord. Je vais vous poser une dernière question, puis après si dans le public vous avez des questions à poser à Véronique Ovalde, ce sera le moment. Donc là, dans quelques jours, sort en livre audio Des Vies d'Oiseaux, que vous avez lu vous-même. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? Enfin, est-ce que ça a changé un petit peu votre regard sur le roman, enfin, sur la profondeur, et comment techniquement ça s'est passé? Enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait?
En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a écrit... je pense tout le temps, je ne sais pas, je parle peut-être un peu pour tout le monde, c'est un peu bizarre, mais je crois qu'en fait, personne ne relit jamais son roman de bout en bout quand il est sorti. On l'a lu tellement de fois en l'écrivant, on l'a revu, on l'a relu, etc. Puis au bout d'un moment, on ne le lit plus de bout en bout. On en lit des petits bouts comme ça, mais jamais en entier. Alors là, en fait, pour faire l'enregistrement... Du coup, j'ai été obligée de le lire de bout en bout. En deux fois, ça s'est fait, mais ça veut dire que je passe plusieurs heures. J'ai passé en tout, je passe 7 heures à lire ce roman, tout haut. Donc, c'était très particulier. Du coup, j'ai été immergée dans cette continuité, tout à coup, de le lire avec beaucoup de concentration, évidemment, parce que lire tout haut, ça veut dire que je suis obligée de ne pas sauter le moindre paragraphe. Et non, c'était intéressant comme expérience parce que moi, j'aime beaucoup lire mes textes tout haut. Je fais des lectures de mes romans, des lectures musicales de mes romans. Et en fait, il y avait eu mon précédent roman qui était sorti en, en livre audio aussi, mais c'était une comédienne qui l'avait lu, puis en l'écoutant, j'avais été un peu gênée, parce qu'en fait, il y avait des mots qu'elle prononçait, peut-être pas toujours comme il fallait, mais même pas des noms propres, hein, c'était des... Par exemple, les jacarandas, c'est une plante, elle prononçait jaracandas, choses comme ça. Ça m'avait gênée, je m'étais dit, mais en fait, c'est trop bête. C'était, en fait, ça avait été un déclic pour moi, je me suis dit, mais c'est trop bête, pourquoi je le fais pas moi-même, puisque... Et en plus, l'avantage de le faire soi-même, c'est qu'évidemment, je peux aménager le texte. Parce qu'en fait, il y a des scènes, par exemple, dans le roman, qui sont des scènes des dialogues. C'est très difficile à entendre un dialogue quand c'est lu par quelqu'un, quand les gens se répondent simplement assez rapidement, dans un dialogue assez rapide. C'est assez difficile à écouter. Donc, l'avantage, c'est qu'évidemment, si c'est moi qui le lis, je peux l'aménager autant que je veux, le texte. Donc, à la fois pour l'éditeur Télème, l'éditeur du livre audio, c'était pratique, c'était agréable, parce que du coup, je fais ce que je veux avec mon texte. Donc, je pouvais rajouter des petites choses, bidouiller des petits trucs pour que ce soit le plus audible possible et que ça ne perde pas de sa saveur, parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus faciles à lire, évidemment, avec les yeux qu'avec l'oreille. Et vice-versa, d'ailleurs.
D'accord. Et bon, dernière question, après je vous laisse la parole. Vous avez déjà une idée de votre prochain roman ou vous êtes sur quelque chose ?
Pas tout à fait. C'est un peu compliqué. C'est difficile en plus de parler des romans qu'on est en train de faire où je trouve qu'on perd de la jubilation à les écrire si on en parle trop. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Moi, j'en parle quasiment jamais avant qu'ils sortent, avant de donner mon manuscrit.
Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup Véronique Olvaldé d'être venue et ben, on espère vous revoir très bientôt. Si parmi vous, il y a certaines personnes qui veulent se faire une petite dédicace ou adresser quelques mots, ben, n'hésitez pas. Et puis encore une fois, merci beaucoup.